Chapitre 37. Dès qu'Angier les lui avait transmis, Lizine s'était empressée de visionner les films. Cinq films récents tournés par Meltzer après son installation à Saint-Maur. Toujours la même mélasse, entre sexe, mutilation, actes dégradants, dans des endroits qui allaient de la fosse d'une piscine vide à des sous-sols aveugles. À vomir, certes, mais rien à voir avec la cruauté de la bobine qu'elle détenait. Sur ces vidéos, Lizine avait cependant reconnu des visages, notamment celui de Jérémy Théobald, chaque fois très entreprenant. Elle voulait comprendre ce que ces monstres recherchaient. Pourquoi avoir kidnappé et assassiné une pauvre fille? Parce que les relations consenties ne leur suffisaient plus? Parce que cette horde d'animaux se croyait tout-puissant, au-dessus des lois? Parce qu'ils avaient décidé de franchir une étape dans la violence, l'interdit, la transgression en se payant un meurtre? Ça les excitait certainement de s'en prendre à une gamine, de voir la ville la quitter après lui avoir tranché la gorge, puis de remettre leur costume et de réintégrer leur domicile comme si de rien n'était. Selon Angier, Meltzer n'avait plus créé d'action officielle depuis plusieurs années. Alors qu'avait-il fait pendant tout ce temps? Existait-il d'autres snuffs comme celui qu'elle avait en sa possession? Ces bêtes sauvages avaient-elles fait d'autres victimes avant Romy? Alors que toutes ces questions se bousculaient encore dans sa tête, dehors, le soleil se levait déjà. Un astre au contour flou, blanchi par les gelées matinales. La journée s'annonçait froide et sèche. Lizine descendit et se fit un café, dans un état de fatigue de plus en plus prégnant. Elle prit la photo de ses parents entre ses mains. Ne ressentit rien, en la regardant, qu'un grand vide entre eux et elle. Un espace qu'elle avait à présent tellement de peine à combler. D'ici à deux jours, elle retournerait à Rouen où une autre épreuve l'attendrait. Comprendre ce qui se passait dans son cerveau. Peut-être lui diagnostiquerait-on une tumeur inopérable, que ses souvenirs allaient continuer à s'effacer, à se mélanger, qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre et qu'elle devrait en profiter pour voyager, accomplir tout ce qu'elle aurait aimé accomplir. Apporter la vérité aux parents de Romy, c'est ça que je veux. Punir les salopards qui lui ont fait du mal. Elle reposa le cadre et feuilleta ses notes sur Jérémy Théobald rassemblées durant la nuit. Un homme aux traits durs, aux yeux toujours maquillés de noir et au physique très sec, nerveux. D'après ses recherches, la main mutilée de ce type n'était pas liée à un accident. En 2017, il s'était en réalité fait couper volontairement l'index par un ami pierceur-tatoueur, un acte chirurgical filmé, pour les besoins d'une performance réalisée au musée Migros de Zurich et qui avait attiré plusieurs centaines de curieux. Lizine avait passé des heures à explorer son univers tordu. Elle avait notamment découvert que, en 1999, à l'âge de 21 ans, Jérémy, alors étudiant aux Beaux-Arts de Lyon, avait été condamné pour tentative de viol sur une fille de 17 ans qui avait refusé ses avances au terme d'une soirée en boîte de nuit. Il l'avait suivie et agressée au moment où elle rentrait chez elle. Heureusement, un habitant de l'immeuble avait pu intervenir et donner l'alerte. Sa peine de prison semblait être à l'origine de sa vocation. Peu de temps après sa libération, il avait commencé à s'enfermer et à se lancer des défis tous plus loufoques les uns que les autres. Comme traverser les Pyrénées avec un boulet de 19 kilos enchaîné à la cheville, rester une semaine sur une plateforme d'1 mètre carré au sommet d'un mât, ou encore se cloîtrer 5 jours dans un casier de 60 cm de haut, autant de large et 90 cm de profondeur. L'idée était de se soumettre en permanence à ce qu'il avait vécu en détention, la contrainte et la privation. La journaliste avait également déniché 2-3 liens où l'on évoquait ses apparitions dans les œuvres de Meltzer, mais guère plus. Après une nuit de fouilles sur le web, elle ignorait toujours qui étaient les autres participants récurrents. Ce qui importait peu puisqu'elle avait Jérémy et qu'elle connaissait son adresse. La casse de Noisy-le-Grand à 30 km de là. Soudain, rompant le silence qui planait dans la bâtisse, son téléphone jetable sonna. Elle reconnut aussitôt le numéro. Henry Cobb, l'étudiant. Henry?
Oui, bonjour. Je ne vous dérange pas?
Je vous écoute.
Je n'ai pas arrêté de penser à cette histoire depuis notre rencontre. Elle me hante et je me disais que c'était dégueulasse de vous avoir refilé le film comme je l'ai fait. De vous avoir laissé vous démerder seule.
Ça va, ne vous inquiétez pas.
Vous avez retrouvé la fille aux cheveux violets ?
Prise au dépourvu par la question, elle demeura muette un instant avant de décider qu'il était inutile de partager les avancées de son enquête avec le jeune homme. En effet, elle n'était pas certaine qu'il puisse supporter ses révélations et préféra opter pour le mensonge. Pas encore. J'ai eu pas mal de trucs à régler entre-temps.
Je comprends. En fait, j'ai une autre piste qui pourra peut-être vous aider. J'ai passé la journée d'hier à parcourir la liste des galeries d'art parisiennes sur Internet pour voir si leur nom me dirait quelque chose. Et j'ai enfin déniché celle dont m'avait parlé Lizine. Enfin, l'autre. Bref, il s'agit de la Blue Arts Factory dans le 6e. C'est là-bas qu'elle avait vu les tableaux de la fameuse Ariane dont vous m'avez parlé.
Lizine nota l'information. Vous en êtes certain ?
Absolument. Comme je voulais faire plus pour vous, je me suis rendu sur place et j'ai discuté avec une nana qui se souvenait de ses œuvres. Elle avait organisé une exposition destinée à mettre à l'honneur des artistes de rue. Ça remonte à environ un an.
Elle se souvenait d'Ariane ?
Oui. D'après ce qu'elle m'a raconté, Ariane était installée au Frigo, dans le 13e. C'est un ancien entrepôt frigorifique aujourd'hui totalement dédié à l'art. Il est possible qu'elle y travaille encore.
C'est génial, Henry, merci.
Je vous en prie. Faites attention à vous, Lizine.
Les frigos. Ariane s'était-elle réfugiée dans cet endroit après avoir quitté la maison d'Atis Mons ? Sans tergiverser, Lizine embarqua ses clés de voiture et sortit de chez elle au pas de course. Ses priorités venaient subitement de changer.